Voilà, on y est. Vous avez la parole.
Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, le Comifer, le GEMAS, d'avoir accepté notre présentation. Et avant de vous présenter justement l'évaluation des matières fertilisantes et supports de culture, je voudrais tout d'abord vous présenter l'agence. Patricia Mérigou et moi-même travaillons donc à l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, à la direction des produits réglementés. Alors, les produits réglementés concernent les produits qui ne peuvent être mis sur le marché qu'après avoir obtenu une autorisation de la part des autorités sanitaires. Et la direction des produits réglementés est chargée de l'évaluation de ces produits, qui sont les produits phytopharmaceutiques, les biocides et les matières fertilisantes et supports de culture. Et donc, Patricia Mérigou et moi-même travaillons à l'unité de coordination de l'évaluation de ces dossiers MFSC. Alors, notre plan va se décomposer en quatre parties. Tout d'abord, une rapide définition des matières fertilisantes et supports de culture. Ensuite, nous allons vous parler de la réglementation qui encadre la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture. L'évaluation qui est assurée par l'ANSES pour les matières fertilisantes et supports de culture. Et enfin, Patricia Mérigou vous parlera d'une étude de cas qui va illustrer un petit peu les grands principes que je vais vous exposer. Alors, qu'est-ce qu'une matière fertilisante ? Le Code rural et de la pêche maritime définit les matières fertilisantes de la manière suivante. Donc, ce sont les engrais, les amendements et, de manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Alors, en pratique, ça consiste en quoi ? Nous avons notamment des produits résiduaires organiques, qui sont les boues issues notamment de l'industrie agroalimentaire, les effluents d'élevage, les sous-produits de l'agroalimentaire, par exemple des vinasses, les digestats de méthanisation. Mais les matières fertilisantes, c'est bien d'autres choses, et c'est notamment des préparations microbiennes, des extraits d'algues, des extraits de végétaux, des extraits de roches sédimentaires ou volcaniques, par exemple, des coquilles d'œufs, d'huîtres, des polymères, notamment des agents mouillants ou des rétenteurs d'eau, des acides aminés, mais je ne vais pas vous faire une longue liste à l'après-vert, donc ce sont quelques exemples. La réglementation qui encadre cette mise sur le marché. Alors, les bases réglementaires en France, c'est tout d'abord, selon le Code rural et de la pêche maritime, donc ce premier point, qu'il est interdit de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit des matières fertilisantes ou supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation. Deuxième point, l'arrêté du 21 décembre 1998 institue le fait qu'il y ait une évaluation des risques liés à ces produits qui doit être assurée pour justement évaluer l'effet préjudiciable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement. Et troisième point, le Code rural définit que c'est l'Agence française de sécurité sanitaire qui est chargée de cette évaluation. Alors, toujours sur le plan réglementaire, l'homologation est la règle, mais il existe quatre exceptions, qui sont tout d'abord les normes NFU, dans lesquelles aussi bien des supports de culture, les amendements ou les engrais sont prévus. Les produits conformes au règlement européen 2003-2003, qui est un règlement qui concerne les engrais minéraux. Les produits organiques bruts cédés directement. Donc ça, c'est entre agriculteurs. Et enfin, les déchets soumis au code de l'environnement et dans lesquels entrent les plans d'épandage. En résumé, si l'homologation est la règle, seulement 5% des produits sont homologués. Les autres produits passent essentiellement dans le cadre des normes ou du règlement 2003-2003. Alors, l'évaluation qui est assurée par l'agence se décompose de la manière suivante. Les pétitionnaires, donc les firmes, déposent un dossier auprès de l'agence. Donc nous avons un guichet unique qui est l'unité de gestion des autorisations de mise sur le marché. Une fois la recevabilité administrative établie, donc le dossier entre en évaluation. Il est assuré par nos équipes scientifiques en interne pour à la fois travailler sur la caractérisation physico-chimique du produit, pour évaluer l'innocuité, à savoir le volet toxicologique et écotoxicologique du produit, et enfin pour évaluer l'efficacité. Et par ailleurs, nos scientifiques s'appuient aussi sur l'expertise donc, de chercheurs et d'experts à l'extérieur de l'agence. Au terme de cette évaluation, Le dossier est présenté en comité d'experts spécialisés, à savoir comité d'experts spécialisés matières fertilisantes et supports de culture. Et ce comité d'experts va émettre un avis. Et ensuite, l'agence va rédiger son propre avis à partir de ce premier avis et le transmettre donc au ministère en charge de l'agriculture, qui va émettre une décision d'autorisation ou de non-autorisation de mise sur le marché de ce produit. Et donc, le procès-verbal du CES, du comité d'experts spécialisés, l'avis de l'agence et la décision du ministère en charge de l'agriculture sont rendus publics. Donc là, je vais vous présenter rapidement, avec cet histogramme, le bilan d'activité de la partie évaluation des dossiers matières fertilisantes et supports de culture. Et là, on peut voir l'évolution entre 2010 et 2013, premier semestre 2013. Et l'on voit qu'il y a une diminution régulière du délai d'évaluation des dossiers. Et c'est ainsi que, pour le premier semestre 2013, plus de 60%, donc plus de deux tiers des dossiers, ont été évalués en moins d'un an. Donc, en conclusion, on a un délai d'évaluation qui est en diminution régulière pour les dossiers matières fertilisantes et supports de culture. Alors, concernant la méthodologie de l'évaluation, l'agence a travaillé à aider les pétitionnaires pour la constitution de leur dossier en mettant dans la boîte à outils une note d'information aux pétitionnaires qui a été éditée en juin 2011 et qui permet, même si ça paraît copieux, de pouvoir bien détailler quand même malgré tout la manière de constituer ce dossier sur le volet administratif et puis sur le volet scientifique avec, comme je l'ai dit, la caractérisation physico-chimique, le volet innocuité et le volet agronomique. Et puis en août 2013, nous avons édité une annexe, nous avons complété cette note d'information avec une annexe sur les préparations microbiennes qui permet d'apporter des informations spécifiquement sur ces produits. Et puis parallèlement, comme la réglementation définit un certain nombre d'indicateurs et de valeurs de référence, nous avons initié une révision de ces valeurs de référence avec notamment Clostridium perfringens. Et parallèlement, nous continuons à œuvrer pour la mise en place de nouveaux outils. Et c'est ainsi que nous avons réaliser une étude d'évaluation qualitative des risques liés aux matières fertilisantes avec une approche multicritère, puisque les dangers liés aux matières fertilisantes et supports de culture peuvent être d'origine chimique ou biologique. L'exposition est diverse, puisqu'on s'intéresse aussi bien à l'exposition de l'opérateur, du consommateur, mais aussi à l'exposition de l'environnement, milieu aquatique et milieu terrestre. Donc c'est pour avoir une approche synthétique et avoir une aide à l'évaluation. Et puis parallèlement, justement, au regard d'un certain nombre de produits, nous avons initié un programme de recherche sur le devenir des polymères qui sont utilisés en agriculture et qui se retrouvent dans les sols agricoles. J'évoquais tout à l'heure les agents mouillants ou les rétenteurs d'eau. Et donc, c'est pour avoir une meilleure connaissance des produits de transformation de ces polymères et de leur devenir dans le sol. Et puis parallèlement, un autre programme de recherche démarre qui concerne les tests d'écotoxicité appliqués aux matières fertilisantes et supports de culture, qui sont d'ores et déjà utilisés pour la constitution des dossiers, mais qui montrent que ces tests ne montrent pas forcément la meilleure adaptation à la spécificité aux matrices que sont les matières fertilisantes et supports de culture. Donc voilà, je vais céder la parole à Patricia Mérigou qui va vous parler de l'étude de cas et rentrer un peu plus dans le détail d'un type de dossier. Non, j'ai peut-être avancé parce que je regardais le temps. Donc justement, avant que Patricia ne vous présente sa partie, nous constatons que le marché des matières fertilisantes évolue et qu'il y apparaît de nouveaux gisements de matières fertilisantes, et c'est notamment la montée en puissance de la méthanisation qui pose de nouvelles questions scientifiques et techniques, puisque compte tenu du procédé de fabrication, on voit de nouveaux questionnements apparaître, et donc ça interroge la réglementation en vigueur et ce que l'on applique, et par incidence sur la manière d'évaluer ces produits. Et donc je vais désormais maintenant passer la parole à Patricia.
Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais faire un focus sur la valorisation agronomique des digestats de méthanisation. Donc, ils sont des produits qui sont d'un intérêt de plus en plus important dans le monde agricole. Si la méthanisation est fortement développée, notamment en Europe, en Allemagne, Danemark, Suisse ou Italie, en France, on en est seulement au premier stade de son développement. Et on assiste actuellement à un essor important de cette filière, notamment du fait d'une politique de soutien et d'objectifs nationaux importants, qui ont été notamment récemment définis dans le plan EMA, donc publié en mars 2013, le plan énergie, méthanisation, autonomie, azote, donc dont les objectifs prévoient 1 000 méthaniseurs à la ferme d'ici à 2020. Alors il faut noter qu'aujourd'hui on en est à peine une centaine d'unités. Donc, vous voyez que la marge de progrès est assez importante. Donc, dans le cadre de ce plan EMA, le ministère de l'Agriculture et la DGAL donc, a édité en mars 2013 donc, une note d'information donc, spécifiant une nouvelle procédure de démarche d'homologation donc, appliquée à ce type de produit. Donc, qui prévoit donc une possibilité de faire une demande collective et donc de regrouper que les agriculteurs se regroupent entre eux donc pour diminuer les coûts notamment des différents dossiers d'homologation et analyses qui sont requises pour ces dossiers. Donc, rapidement, qu'est-ce que la méthanisation ? Donc, la méthanisation est d'abord un procédé biologique naturel donc, qui permet de valoriser des matières organiques. Et elle consiste donc à la transformation des chaînes organiques complexes en éléments simples qui est réalisé donc, par un consortium microbien qui fonctionne en anaérobiose. Donc, la dégradation donc, de la matière organique se déroule dans un digesteur donc, qui est chauffé et brassé en permanence en l'absence d'oxygène. Donc, de ce procédé de méthanisation donc, ressortent deux types de produits. Donc, la méthanisation permet une production d'une énergie renouvelable, donc le biogaz constitué essentiellement de méthane, et d'une matière fertilisante, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le digestat. Donc le procédé de méthanisation, en fait, est très dépendant de la ration alimentaire que l'on met dans le digesteur. Et donc cette ration doit être réfléchie et aucune improvisation n'est possible. Puisque donc le procédé en lui-même requiert des constantes assez établies. Et donc l'approvisionnement doit être stable, équilibré et maîtrisé. Donc on distingue deux gros types de gisements. Donc les gisements agricoles constitués essentiellement des effluents d'élevage, donc qui permettent de contribuer notamment à l'ensemencement en micro-organismes du digesteur et ils assurent également une stabilité à l'activité bactérienne. Donc dans ces gisements agricoles s'y ajoutent des déjections animales, les fumiers et des résidus de culture, des cultures énergétiques, des résidus de tonte, enfin la liste peut être longue. Donc si ces gisements agricoles sont de bonnes matières entrantes donc pour assurer un processus de méthanisation, elles ont par contre un faible pouvoir méthanogène, donc il faut compenser ces lacunes par l'ajout de déchets, notamment agro-industriels, et notamment des déchets agroalimentaires, des graisses, du sang, etc. Enfin, une autre catégorie de matière qui sera là utilisée sur des unités de méthanisation un peu plus importantes qu'une unité à la ferme, donc consiste à l'ajout de bouts de stations d'épuration, des ordures ménagères triées à la source ou encore bien d'autres matières premières. Donc vous voyez que la diversité des intrants est vaste en type et également en saisonnabilité, enfin, selon la saison de l'année, puisque notamment les gisements agricoles ne sont pas les mêmes en fonction des mois de l'année. Donc la méthanisation, donc ce n'est pas un procédé ou seulement quelques types de procédés, mais bien une combinaison de multiples voies. Donc là, ce schéma résume les principaux procédés utilisés en France. Donc les intrants sont généralement pré-traités donc pour assurer leur hygiénisation, mais également pour améliorer l'hydrolyse et la biodégradabilité des matières premières. Donc ces intrants sont ensuite digérés, puis post-digérés donc selon donc la digestion anaérobie qui peut se dérouler donc en voie humide ou voie sèche, en voie mésophile ou thermophile. Donc la voie la plus développée en France, c'est la voie humide mésophile, c'est-à-dire à des températures autour de 40 degrés. Donc, à l'issue de cette phase de digestion, on y obtient un digestat brut qui subit ensuite différents post-traitements. Donc, le premier consiste en une séparation de phase, soit par centrifugation, soit par presse à vis le plus souvent, et donc qui conduit à une fraction liquide et une fraction solide, et une répartition donc, des éléments fertilisants différents. Donc la fraction solide va être riche en phosphore, alors que le digestat liquide va concentrer l'azote et essentiellement sous forme ammoniacale. Donc le digestat liquide peut être valorisé en tant qu'engrais azoté. Pour le digestat solide, il s'avère qu'il constitue plus enfin, qu'il a plus de qualité d'amendement organique. Donc, ce digestat solide peut ensuite être soit séché, soit composté, soit chaulé, donc afin d'augmenter sa stabilité notamment et sa valorisation agronomique. En ce qui concerne la fraction liquide, donc elle peut subir des procédés de plus en plus poussés, donc qui concernent en différents procédés, donc du stripping, de la précipitation de truite, ou encore de l'ultrafiltration suivie d'osmose inverse, donc qui permet là d'obtenir une solution de sulfate d'ammonium concentré, donc qui va être également utilisé pour fertiliser. Et d'un effluent donc, qui se résume grosso modo à de l'eau. Donc là, on est arrivé au stade ultime de traitement donc des matières premières. Donc les propriétés des digestats, donc, c'est que le procédé de méthanisation conserve les éléments fertilisants tout en améliorant leur disponibilité pour les plantes. Donc, le digestat a une valeur agronomique supérieure à celle des intrants, la valeur amendante est conservée et la valeur fertilisante est améliorée. De plus, la montée en température permet une hygiénisation supérieure à celle des matières entrantes. Le produit est désodorisé puisque la majorité de la matière organique assimilable est dégradée. Et enfin, le produit est homogène. Et permet donc une meilleure fluidité et une régularité à l'épandage. Donc une facilité d'utilisation par les agriculteurs. Donc le statut des digestats actuel en France, donc le digestat est encore considéré comme un déchet, donc soumis à plan d'épandage. Donc toutes les unités de méthanisation sont soumises au régime des installations classées. Toute unité de méthanisation traitant des déjections animales est également soumise au règlement européen sous produits animaux. Donc, actuellement, des réflexions sont en cours donc, pour obtenir le statut de produit pour le Digesta. Donc, par voie de normalisation, donc, le Digesta peut être commercialisé uniquement si celui-ci est, a subi un compostage caractérisé. Donc, la deuxième voie, c'est la voie de l'homologation. Donc, actuellement, nous sommes en cours d'évaluation de 4 dossiers. Et enfin, il faut prendre aussi en compte le contexte européen, puisque le règlement 2003-2003 sur les engrais minéraux donc prévoit un paragraphe sur les digestats et donc peut-être l'inclusion de ces digestats dans ce nouveau règlement. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et nous sommes à l'écoute de vos questions.
Merci. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Moi, j'en ai une. Dans vos dossiers d'autorisation, quel est le pourcentage de rejetés ?
Bonne question. si au départ, justement, les industriels pouvaient considérer qu'il y avait souvent des refus, là, je dirais qu'on est au-delà des 60% de la part de l'agence d'avis favorable.
Ok. Alors, des questions, des commentaires dans la salle ? Ah oui, mais...
Oui, bonjour. Donc, Stéphanie Martin-Gasquet, la direction générale de l'alimentation, donc, au sein du bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrants. Donc, je m'occupe du secteur matières fertilisantes qui, suite effectivement aux avis de l'ANSES, propose les décisions de mise sur le marché donc, des matières fertilisantes ou des phytopharmaceutiques. Et je voulais juste apporter une précision sur la procédure collective, en fait, sur la demande d'homologation. Cette procédure n'est pas nouvelle. En fait, une demande d'homologation peut être portée par plusieurs entités, morales ou physiques, plusieurs, donc, un pétitionnaire qui regroupe plusieurs bénéficiaires de l'autorisation. Et effectivement, dans le cadre notamment des digestats, donc on a sorti une note qui est parue au bulletin officiel du ministère de l'Agriculture donc, en mars 2013, où effectivement on incite les porteurs de projets, donc on a fait plusieurs réunions conjointement des GL et la direction générale donc, des politiques agroalimentaires et des territoires, donc mes collègues, auprès des porteurs de projets digesta de méthanisation pour les inciter à se regrouper effectivement pour, donc s'ils ont des installations avec des digestats, des intrants, de même nature avec des procédés identiques, effectivement, à déposer collectivement une demande pour accéder plus rapidement, dans ce cas-là, à une autorisation qu'on ferait sous forme d'arrêté. Voilà. Et un dossier présenté peut viser plusieurs installations. Hein. Un dossier ne veut pas dire un dossier par installation. C'est un dossier par le couple, on va dire, intrant, comme l'a précisé l'ANSES, intrant et procédé. Voilà.
Merci pour cette précision.
Oui, bonjour, Gilles Poitvin, je suis délégué général de l'UNIFA. Je voulais signaler que parmi les possibilités légales de mise sur le marché d'un produit en France, il existe aussi un règlement européen que nous appelons en raccourci sur la reconnaissance mutuelle, qui en fait permet à une entreprise de commercialiser dans n'importe quel État membre un produit légalement autorisé dans un autre État membre. Et c'est une reconnaissance mutuelle qui s'applique non pas à l'évaluation, comme c'est le cas dans d'autres domaines de produits, mais qui s'applique à l'autorisation de mise sur le marché. Et l'État membre ne peut s'y opposer que dans un délai très court, avec une procédure proportionnée, et en ne demandant pas à l'entreprise la preuve de l'innocuité de son produit, mais en apportant, c'est l'État membre même qui doit apporter la preuve de l'absence de sécurité du produit concerné. Voilà, c'est une procédure qui n'est pas vraiment nouvelle, puisqu'elle résulte de l'application du traité de Rome, donc ce n'était pas hier, mais elle a été précisée par un règlement en 2008. Merci.
Merci pour cette précision. On a le temps pour une dernière question.
Oui, bonjour. Donc Bertrand Le Copman, Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc nous coordonnons des actions à travers le CASDAR d'éjection et à travers le DOST Vadim sur l'effet de l'azote au champ des digestats de méthanisation. et nous avons déjà donc un certain nombre d'essais au champ et de valeurs de référence au champ. Alors ce qu'on peut observer sur la valeur azote du digestat de méthanisation au champ, c'est que le mode d'apport va impacter beaucoup sur l'efficience de l'azote. Si vous apportez à la palette, si vous apportez au pendillard, ou si vous apportez à l'injection, vous aurez une valeur azote qui va énormément varier. Alors ensuite, le rapprochement que nous pouvons faire au jour d'aujourd'hui, mais pour des apports au pendillard, c'est que c'est le lisier de porc qui semble le plus proche d'un comportement agronomique azote. Quand je dis comportement agronomique azote, c'est le CAU-KEQ, pour ceux qui connaissent. Donc c'est le lisier de porc qui est le plus proche. Et nous voyons relativement peu d'écart au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de variations bien sûr, entre une valeur azote d'un lisier de porc et un digestat de méthanisation, mais je dis bien au pendillard. Par contre, si on passe par de l'injection, alors dans ces cas-là, on a une amélioration de la valeur azote du digestat.
Merci. Je pense qu'il va falloir une dernière, alors, mais très courte.
Alors, Oui, bonjour, Pierre-Yves Tourlière, Timac Agro. Dans les dossiers d'homologation, il y a une notion de stabilité sur la composition du produit. Comment vous gérez la stabilité de la composition du produit sur les digestats de méthanisation ou par opportunité, il peut très bien y avoir des modifications dans les matières premières, un déchet industriel, une opportunité de valorisation par l'agriculteur ou par le consortium d'agriculteurs qui gère le méthaniseur.
Alors effectivement, le problème entre guillemets des digestats de méthanisation, c'est qu'il y a une diversité importante d'intrants. Donc en fait, il est possible de déterminer des grandes familles d'intrants et donc à l'intérieur de ces grandes familles, les matières premières sont substituables. Et il s'avère que le procédé de les données que l'on a actuellement sur le procédé de méthanisation, c'est un procédé qui lisse en fait la diversité que l'on peut avoir au départ. En fait, on obtient un produit assez constant donc sur les paramètres, notamment fertilisants. Et donc, il s'avère que ce sont des produits qui sont considérés comme stables.
Bien, merci. Je pense qu'il va falloir passer maintenant à l'exposé suivant. Merci beaucoup.
Avant de quitter la scène, je voulais juste vous présenter un rapport d'activité donc de notre direction sur la partie matière fertilisante et support de culture. Donc j'ai quelques exemplaires.